15h de l'après-midi.
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là, toi?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster?
Ah oui, mais?
On se connaît?
Ouais. On se connaît.
Mais c'est de la merde!
Bonsoir et bienvenue dans Déjà Vu, l'émission cinéma qui parle des films et de leurs remakes, mieux connus, meilleurs que l'original ou carrément inutiles. On est ici pour en parler et déterminer lequel est le meilleur. Je suis accompagnée, tout d'abord, d'un petit garçon qui ne cherche qu'à s'évader un peu, ou plutôt d'avoir des connexions avec les autres afin de combler sa peur viscérale de l'abandon, quitte à s'attacher à un vieux machin tout gluant et ridé qui sait à peine aligner deux mots. C'est Maxime.
Bonjour, papa, t'es où?
Une bonne ambiance. Elle arpente chaque nuit la forêt du coin à la recherche de potentielles traces d'objets volants non identifiés, et il n'y a plus de doute sur leur existence, il ne reste plus qu'à trouver une preuve. Quitte à courser des enfants en combi de protection chimique. C'est Mélissa.
Bonsoir, n'ayez pas peur, soyez en confiance.
Et notre invitée, elle n'est pourtant jamais à la maison. Entre les courses, le boulot et son costume de chat sexy pour Halloween, elle est débordée. Et ça, c'est sans compter la tournée de cadeaux qu'elle doit encore se fader toute seule, parce que monsieur est soi-disant au Mexique. C'est notre invitée, la mère Noël, mais on l'appelle aussi Justine.
Bonjour.
Comment se passent les préparatifs de Noël?
C'est fatigant, déjà.
Éreintant. Mais que vois-je à côté de vous, Mère Noël? Il vient de sortir du plus grand dressing de la Terre. On ne sait pas qui vous êtes, ni ce que vous êtes, mais allez-y, installez-vous, je vous en prie. Prenez donc une petite bière.
Iti. Iti.
Ah,
Iti.
Ah, c'est votre prénom?
Iti.
En cette fin d'année, on va parler d'un film culte de notre enfance à déguster au coin du feu, en famille ou entre amis, en se partageant quelques petits bonbons au beurre de cacahuète. Iti, l'extraterrestre, réalisé par Steven Spielberg en 1982, n'est-ce pas, Maxime?
Oui, vous m'avez entendu sourire.
Oui, on t'a entendu sourire. Et là, vous vous dites, mais attends, c'est pas un podcast qui parle de remake, normalement? Eh bien si, il existe aussi sa version turque, sortie l'année suivante, un pur bonheur, Badi de Zafer Par. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous les aviez vus? Mélissa?
Oui, alors Iti, bien entendu, qui est un peu culte quand même, qu'on l'ait vu ou pas. D'ailleurs, on a tous au moins l'image du vélo en contre-jour, enfin avec la lune. Donc oui, je l'avais vu petite. Alors, il fait pas partie de mes coups de cœur d'enfance. Je pense qu'il était trop déprimant pour moi à l'époque. J'avais besoin de happy ending. C'est pas vraiment, c'est pas un horrible ending, mais c'est pas non plus très réjouissant sur la vie. Donc voilà, culte, mais c'est pas ma petite friandise d'enfance, quoi.
Ok.
Et bien entendu, j'ai une connaissance assez limitée du cinéma turc, malheureusement. Donc je ne savais pas qui avait ce remake.
Excusez-moi, je croyais qu'on avait des cinéphiles autour de la table.
Ouais. Pardon, je pensais qu'on avait affaire avec des professionnels. Maxime.
Bien entendu, je connaissais E.T. Un peu comme Mélissa, c'était pas non plus. J'avais pas la cassette, j'avais pas le VHS à la maison. Donc, je pense que j'ai dû le voir entrecoupé quand il passait à la télé, probablement aux périodes de Noël. Mais je l'ai vraiment apprécié qu'une fois adulte, quand j'ai revu tous les films de Spielberg.
Ah oh oui! Même pas au Vidéoclub.
Non, vraiment. Je pense qu'il passait trop à la télé pour que j'ai besoin de le regarder.
Pour que j'en ai besoin. Ouais.
Et puis Badi, évidemment que je connaissais pas. Après, cependant, j'avais peut-être dû voir passer l'affiche en Anarland. Mm. parce que bien entendu, sans vous spoiler, c'est un gros nanar. Parce que l'affiche vaut le détour. Hein.
Je vous laisse
un petit peu aller voir. Donc voilà. Et puis, par contre, je connaissais un peu d'autres faux remakes de E.T. Il y a notamment Mac et moi.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà.
Et notre spécialiste de Badi, Justine.
Bah oui, spécialiste, c'est sûr. Moi, E.T., j'ai été dans le rejet émotionnel pendant très longtemps. C'est-à-dire que je ne l'avais même pas vu quand j'étais petite, parce que, en fait, dès le début, quand il a montré son doigt, j'ai rejeté le truc. Je me suis mise à hurler et vraiment, je n'ai jamais vu le film quand j'étais petite. Et donc, maintenant que je suis un peu plus grande, je l'ai vu au cinéma l'année dernière.
Ah, ça va être trop bien aussi.
Et donc, je l'ai revu, enfin, vu, parce que je n'avais jamais vu avant. Et du coup, c'était très cool de le voir sur grand écran et je me sentais plus mature pour le voir cette fois.
D'accord. Voilà. Et Badi ?
Et Badi, j'aurais préféré pas le voir.
Est-ce qu'on a vraiment vu la qualité de l'image?
Je suis en rejet émotionnel de certaines scènes, encore une fois, qui m'ont un peu choqué.
Certaines, pas la totalité.
Mais non, je ne l'avais jamais vu.
Je pense qu'on est les seuls à l'avoir vu.
Oui, peut-être. Dans la vie, je pense. Et la personne qui a fait l'article sur Nanarland.
Je pense que personne après cet épisode va le voir.
Et E.T., avez-vous vu ce remake qui reprend votre vie?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ok. Eh bien, moi, pareil, je connaissais E.T., mais par contre, c'était... C'était plutôt un film culte de mon enfance. Je sais que je l'ai beaucoup regardé avec mon frère. Par contre, je ne l'avais jamais revu en tant qu'adulte. Et c'était toujours un plaisir. Tout comme Badi, bien sûr.
On ne va pas gâcher le plaisir. Ouais.
L'histoire nous plonge dans le quotidien d'une famille de banlieue américaine dans les années 80, donc on est sur du BMX, les copains qui zonent dehors, le chien de famille, la chambre en bazar, et on est face à une mère récemment séparée de son mari, si j'ai bien compris, qui lui serait partie au Mexique avec ce qui semble être une nouvelle compagne. Elle élève donc pour l'instant seule ses trois enfants, le grand frère Mike, Michael, Elliot, le middle child, et la petite dernière, Gertie. Un soir, un alien se retrouve malencontreusement abandonné par les siens sur Terre dans la forêt voisine. Il se réfugie dans le cabanon d'une maison, c'est celle de notre famille en question. Elliot est tout d'abord le seul à le découvrir et il le prend pour un gobelin. Son entourage pense encore qu'il affabule pour attirer l'attention. Il est un peu seul face à sa découverte. Elliot révèle l'existence d'E.T. à son frère, à sa sœur, puis il tente de cacher son existence en le laissant au milieu des peluches, en le déguisant en mamie, en fantôme. Mais E.T. est curieux, il observe, il apprend vite, il boit du coca, des bières, il a des capacités incroyables comme son don pour insuffler la vie, pour guérir les blessures, faire voler les objets, surtout les vélos qui passent devant la lune. Elliot est comme connecté à E.T. et les émotions de l'un influencent celles de l'autre. E.T. cherche à communiquer, faire comprendre qu'il doit rentrer chez lui pour survivre. Il conçoit même un objet de télécommunication pour demander au sien de venir le chercher. Quoi. Vous m'avez oublié sur l'autoroute, les gars. Mais pendant ce temps, l'armée américaine, me semble-t-il, semble être aux trousses de l'alien. Et la famille est sur écoute, même. Donc ça devient sérieux. Petit à petit, E.T. et Elliot dépérissent à vue d'œil, et lorsque les scientifiques capturent enfin E.T., celui-ci meurt malgré leurs efforts. Mais, grâce à l'attention d'Elliot et à leur lien, E.T. reprend vie, il ressuscite en quelque sorte, et s'ensuit une course effrénée en camion avec des scientifiques aux trousses pour l'amener jusqu'à son vaisseau spatial. Elliot veut qu'il reste, E.T. doit partir, le lien, aussi beau soit-il, doit être rompu pour que chacun puisse survivre. mais l'entraide qui a pu naître de cette rencontre est finalement ce qui restera dans leur cœur.
Une belle histoire de lâcher prise, finalement. Oui.
Voilà.
Une belle leçon sur l'attachement.
Et le fait que rien ne reste, aucun lien affectueux
n'est voué à durer, on peut se le dire.
Tout passe.
Tout passe.
C'est vrai.
Quelle sagesse.
C'est poétique. E.T., hein. ça vous a pas ému de voir ce documentaire sur votre vie ?
Je serai juste là.
It's a phenomenon known as déjà vu.
Justine, tu disais que tu l'avais vu que l'année dernière, et j'ai une question. As-tu vu la série Stranger Things ?
Oui.
Est-ce que du coup, en voyant E.T., tu t'es pas dit ah mais c'est Stranger Things ?
Ils ont tout piqué.
Il y a quand même pas mal d'inspi. J'ai eu l'impression, t'as raison.
Bah c'est la principale. Hein. Ouais. Enfin, ils se sont jamais cachés en faisant
les Goonies aussi.
Ouais, c'est vrai.
Oui, oui, mais après, ils ont différentes inspirations, mais surtout le début, c'est quasiment plan pour plan, certains trucs, quoi.
Et puis l'univers aussi, oui. Quelle bande de potes, là, c'est des frères et sœurs, mais...
Les vélos.
Les vélos,
tout simplement.
Toujours, on y revient.
Les fringues.
Évidemment. Et Spielberg, il avait fait aussi Rencontre du troisième type.
Oui.
Je crois que c'est un thème qu'il aime bien, le petit monsieur.
Oui. Bah, si vous voulez, alors j'ai déjà plein d'anecdotes.
Bah oui,
vas-y. Raconte.
Que, alors... c'est le quatrième ou cinquième film de Spielberg, si je ne dis pas de bêtises. Son film juste avant, c'est Rencontre du troisième type, comme tu viens de le dire. Et pendant le film, il y a un petit garçon qui joue très bien. Et il y a pas mal de personnes qui lui disent « t'as fait un super boulot avec ce gamin, tu devrais continuer à bosser avec des enfants ». Parce que, je crois qu'on a déjà parlé dans cette émission, il y a un truc très connu au cinéma, c'est que c'est très difficile de faire tourner des enfants et des animaux. Visiblement Spielberg est fort avec les deux parce que là il met un chien et des enfants.
E.T. c'est quoi, c'est...
c'est une grenouille.
Qu'êtes-vous E.T. Qu'êtes-vous?
Sois sage.
D'accord. Et donc ça a été le tournage avec Monsieur Spielberg?
Bien. Oui, bien.
C'était la première fois que vous tourniez dans un film?
E.T. maison.
D'accord.
Du coup,
je pense qu'il veut dire que Spielberg c'est devenu un peu comme sa maison.
Oui, c'est ça. Il y a un lien familial.
C'est magnifique. Donc Spielberg voulait faire un film sur des enfants et parallèlement à ça, il écrivait un film aussi sur des extraterrestres qui était plutôt un film d'invasion avec des méchants extraterrestres. Et au fur et à mesure, il a un peu mélangé ces deux idées entre le film d'enfant et le film d'extraterrestre et que ça a donné E.T.
C'est un mix, en fait.
C'est un très bon mix.
Un remix.
Remix. Et voilà, après, il y a tout un truc sur le fait que Spielberg n'a pas trop parlé avant de la façon dont le divorce de ses parents avait impacté sa vie. Il en a parlé beaucoup plus ouvertement dans l'un de ses derniers films, The Fables Man. Et en gros, voilà, ça parle beaucoup de lui à travers Elliot.
Mais même moi, en tant qu'adulte, de l'avoir revu, j'ai eu vraiment la sensation de voir les émotions et la transparence qu'il avait dans ce film-là. Parce qu'en fait, finalement, je trouve que le film parle beaucoup de solitude, de l'enfance.
D'incompréhension.
Ouais, c'est ça. L'enfant se sent complètement abandonné, finalement, à tel point qu'un chien ne lui suffit pas, en fait. Parce qu'en fait, normalement, notre élément d'attention, c'est le chien. Quand
ouais,
on a une famille.
Il a d'ailleurs un portrait à son effigie, enfin, une photo encadrée de lui dans la maison.
Il est magnifique.
Oui, c'est ça. C'est Harvey, il est trop mignon.
Quatre Oscars quand même,
ouais.
Avec la musique de Monsieur John Williams comme dub. Oscar pour le son, le mixage et les effets spéciaux.
Pas d'Oscar pour.
Malheureusement.
Et t'es triste.
Il y avait pas la catégorie. Il y a la catégorie rôle masculin, rôle féminin, mais il n'y a pas rôle extraterrestre.
Rôle extraterrestre.
Ça aurait pu être créé pour l'occasion.
Oui.
Oui.
E.T. et mes trophées.
D'ailleurs, moi, je croyais toujours que c'était un animatronique, mais non. J'ai appris récemment, grâce à un ami qui n'est pas autour de cette table, que, en fait, c'était un petit garçon en dessous du costume de E.T.
Quelle spécificité !
Un petit garçon qui n'a pas de jambes, et du coup, il était dans le costume de E.T. et en gros, il se levait sur ses mains pour se déplacer.
Mais sinon, Spielberg a vraiment une manière de traiter les enfants.
Non, mais il a pas coupé les jambes du gamin avant qu'il fasse ça.
C'était vraiment un rôle de sa vie, finalement.
Bah, il y avait de l'animatronique quand même pour tout ce qui est clignement d'yeux, ouais, etc. Oui, peut-être, ouais. Mais dans le corps du truc.
Non, c'était ça. Un vrai enfant ouais, c'est ça. Qui y ressemble.
mais du coup,
il y a aucun maquillage.
Ça explique la démarche un peu robotique, finalement. Oui. Ça, il ressemble un petit peu à R2-D2.
Mais c'est comme si tu marchais dans un tronc d'arbre, quoi. Ouais,
après,
c'est...
Mais en même temps, moi, j'ai lu que le costume pesait plus de 20 kilos.
Pauvre gosse.
Donc, en fait, c'est, quand on imagine qu'il n'y a pas de jambes plus, il doit se promener sur ses mains. Ça doit être, dur, les tournages, en vrai.
J'espère qu'il a été payé, mais bon.
En bière, vous avez je crois. Été bien payé, E.T.
Oui.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'avais jamais vraiment remarqué, mais c'est en lisant des choses, c'est filmé à hauteur d'enfant. Oui. Et en fait, je sais plus au bout de combien de temps, mais pour le début du film, on voit pas de visage d'adulte.
Je crois que la première fois qu'on voit le visage d'un adulte, c'est vers la fin quand E.T.
Ou la mère.
La mère. Ouais. On voit que leurs mains, le prof par exemple, on voit que ses mains. Au début, on sait pas si c'est un flic ou un mec de l'armée, on voit que ses clés.
Ses clés là, ouais.
Et c'est ce gars-là justement.
Qui est crédité par Keys.
Exactement. Et quand E.T. Tombe malade et qu'il est en train de dépérir et qu'il y a toutes les blouses blanches là qui arrivent. Là, on voit vraiment son visage à ce monsieur et il parle à Elliot. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il n'est pas si méchant, ce monsieur. Parce qu'il a l'air très protecteur. On a l'impression que c'est un peu Elliot qui aurait grandi parce qu'il dit lui-même qu'il attend ça depuis qu'il est enfant et tout. Donc, c'est quand il est un peu plus rassurant qu'on peut voir son visage et qu'il représente quelqu'un.
Au niveau des enfants, justement, tu parlais de l'acteur. Apparemment, c'était la grande émotion dès le casting. Et c'est comme ça que Steven, il a dit banco, quoi.
C'est ça. Il y a des images du casting.
Ouais. Au moment où il lui dit qu'il est pris.
Ils sont tous en train de chialer et puis il fait « You got the job, kid ». Après, c'est vraiment, je laisserai regarder.
Apparemment, le visage d'E.T. s'inspire à la fois du poète Carl Sandburg, d'Albert Einstein et d'un Carlin.
Mais oui,
carrément.
Moi, je trouvais que c'était pas sympa.
Ça fait un peu aussi
Carlin,
une grenouille fripée, quand même.
Mais carrément.
C'est une grenouille fripée avec les yeux du Carlin.
Par contre, Justine, il est juste à côté de nous.
Sans oui.
Qui vous emmerde.
Mais il a fait de la chirurgie. Parce que maintenant, il est BG, hein, je vous le dis.
Alors, on disait qu'il y a la petite sœur et du coup qui est jouée par
Drew Barrymore.
Et moi, je trouve que c'est un des meilleurs personnages du film parce qu'on voit très bien qu'elle joue pas et que c'est vraiment une petite fille qui réagit. Oui. Il y a plein de moments où elle est trop drôle. Et déjà, le fait qu'elle soit qu'elle le déguise.
Ah oui.
Moi, j'avais oublié cette scène-là et du coup, j'ai vraiment explosé derrière. Parce que je trouve le design
le visuel,
est trop mignon, quoi.
Carrément.
Et par rapport à ça, vu qu'il y a eu beaucoup d'enfants sur le tournage, Spielberg, ou les producteurs, ou tous ensemble, ils ont tourné le film dans l'ordre chronologique, ce qui est assez rare au cinéma. Ouais. En général, on tourne par lieu pour pouvoir un petit peu profiter du temps, quoi. Et là, ils l'ont tourné dans l'ordre chronologique pour que les enfants puissent aussi s'imprégner de l'histoire, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Et aussi, je pense, pour qu'à la fin, quand ils lui disent au revoir, qui a une attache quoi, émotionnelle.
Il est intelligent, ce Spielberg, ouais. Franchement, je ne pensais pas. Mais...
Il devrait faire des films.
Ouais. Il devrait réaliser des films.
Je ne sais pas s'il en a fait d'autres après.
Je pense qu'il a un truc. Hein.
Il a un truc, on va l'encourager dans ce sens.
Bien joué, Spig.
Je lui envoie un WhatsApp.
Un WhatsApp.
Un message sur Facebook.
Un MSN.
Pardon, excusez-moi.
Oui, oui, monsieur.
Ah.
Vous m'avez pas reconnu, je suis Badi. Je trouve que vous parlez depuis très longtemps de E.T. qui est là, c'est le petit chien là, qui est à côté de moi.
E.T.
Mais franchement, Badi. Badi, c'est vraiment un film exceptionnel. Ouais. Ça a été vraiment un film qui a marqué une génération en Turquie. Alors certes, c'est pas sorti vraiment en dehors de la Turquie, mais je pense que vous avez sous-estimé le film. Et je suis là en tant que Badi pour rendre un peu le mérite de ce film.
C'est vrai.
Badi, c'est quand même un film qui a été tourné en 10 jours.
Ah oui, vous avez changé.
Parce que Badi parle turc, français et extraterrestre.
Il est incroyable.
Donc, pour un film tourné en 10 jours, certes qui a plagié l'intégralité des musiques et carrément des citations entières du film, mais quand même, un résultat en est sorti. Alors qu'à mon avis, E.T., ça a pris plusieurs mois. Donc, je t'aiderais à dire que E.T., tais-toi.
Non. Badi prend beaucoup de place. Bonjour, monsieur Badi.
Bonjour. Je parle donc du peuple turc que je représente.
Vous avez eu la nationalité turque depuis ?
Grâce à la sortie du film.
D'accord.
Je suis chevalier des arts et des lettres de Turquie. Oh,
vous êtes resté donc sur la terre ferme.
Ah, je fais des allers-retours, j'ai deux maisons.
Ouais.
Maison ! Oui, maison.
Est-ce que vous aviez eu connaissance justement de ce fameux jeu vidéo sur Atari ?
Ah oui !
Sur
aussi un plagiat de Badi, je crois.
Oui, je pense que ça a été d'abord inspiré par Badi, mais après, ils se sont dit E.T. c'est un peu plus connu dans le monde, et du coup, ils l'ont appelé comme ça. Mais on sait très bien que...
Oui, il y a toute une histoire avec ce jeu vidéo.
Il y a toute une histoire. La connaissez-vous ?
Non,
absolument pas.
Allez, Maxine, vas-y.
Alors, c'est l'histoire d'un jeu. Non, mais en fait, dans les années 80 et 90, c'était très courant de faire des jeux vidéo sur des films qui fonctionnaient. Et souvent, ils étaient bâclés et très mal faits par des équipes qui étaient sous-payées. Et le jeu vidéo E.T. a été mis en production. Et en fait, il était tellement mauvais et tellement... boudé par ses créateurs, que juste avant de le sortir, ils ont décidé de pas le sortir et d'enterrer toutes les cartouches dans le désert. Et pendant longtemps, c'était un mythe.
Encore de la pollution.
Et je me disais, c'est pas possible. Et il y a eu un documentaire avec des gens qui ont retrouvé l'endroit et qui ont déterré les cartouches de E.T. Voilà.
700 000 cartouches d'un vendu.
Ah oui, j'ai oublié que c'était autant.
Ont été retrouvées, enterrées au Nouveau-Mexique. Vraiment une belle leçon d'écologie.
Ça pourrait être un meilleur film que Badi à faire.
Oui.
Enfin, à peu près tout est un meilleur film que Badi a fait. Désolé, monsieur Badi.
Je refuse.
Est-ce que Badi, vous aimez les Reese's Pieces ? Les petits bonbons qu'on voit dans E.T.
Dans Badi, c'est uniquement des loukoums.
C'est vrai, en plus.
Mais par contre, pour les bruitages, c'était moins pratique de marcher dessus, ça c'est pas le même bruit, donc on...
D'accord.
C'est
moi qui... Je comprends, il y a eu une différence en termes de production sonore, quoi.
On est plus sur du...
Ouais. C'est pas le même engagement scénique, non.
Il fallait s'adapter et vous l'avez très bien fait.
Merci.
Et dans E.T., il y a d'autres placements de produits.
Ah oui.
Ah oui.
Par exemple, Coca.
Ouais. Oui.
Dans les fun facts que j'ai lus sur Reddit, bien sûr, il y a le fameux Practical Vanilla qui a précisé que le truc amusant, c'était que Pepsi avait sponsorisé la sortie de la VHS. Oui. Sauf que dedans, c'est du coca. Et ils n'ont pas changé.
Crossover.
Ils ne se sont pas rendus compte ?
Je sais pas, ils n'ont pas décidé de changer.
Oui, il y a une voix par-dessus dès qu'il dit coca, il fait Pepsi.
Voilà, c'est dit. Il fait Pepsi. Pepsi.
Mais alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec les placements de produits, c'est qu'il y a un moment où il y a genre 5 minutes où il n'y a que ça. C'est en fait, il fait, oh, yeah, ça c'est du coca, ça c'est des bonbons, ça c'est Lando Calrissian de Star Wars, ça, il donne tous ses jouets. C'est comme s'il y avait une vraie pub de youtubeur avec la petite barre.
C'est ça, oui. C'est un unboxing en fait, le truc.
J'étais à deux doigts de m'attendre à NordVPN, mais je me suis dit, non, ça va aller. Il y a un truc très drôle où à un moment, il vient lui montrer tous les trucs et puis il dit, ah, t'as besoin de te nourrir, tiens du coca. Alors c'est pas du tout des trucs pour se nourrir. Enfin voilà.
Et moi, j'ai une autre anecdote par rapport au... Je crois qu'on voit des M&M's dedans, il me semble.
C'est les Reese's Pieces.
Ah ouais.
C'est les trucs au bord de cacahuètes.
À la base, ça devait être les Skittles, là, je sais plus, les bonbons de toutes les couleurs. Du coup, apparemment, ça devait être sponsor du coup par eux, mais ils ont refusé parce qu'ils croyaient pas au film. Ça devait être des Skittles.
Ah, d'accord, ok. Au départ, c'était ça.
C'est ça. Et en fait, ils ont refusé. Et donc, maintenant, je pense qu'ils s'en mordent les doigts. Et voilà.
Et ouais, les losers.
Les losers.
Tous les éditeurs qui n'ont pas voulu publier Harry Potter, ils s'en sont mordent les doigts.
Ouais, ouais.
Et oui.
Peut-être plus maintenant.
Un peu plus maintenant.
Alors que je tiens à signaler que dans Badi, il n'y a aucune marque visible, aucun sponsor.
C'est, vrai.
C'est vraiment un choix de l'artisanal et du traditionnel qui s'est opéré sur ce film. Voilà, avec peu de budget, avec des décors réalisés comme avec une grue pour faire voler les vélos, etc. Oui, oui, on d'accord. est vraiment
des
sur
émotions brutes. Savoir-faire. Hein,
Monsieur Badi, j'ai une question. Si le président Erdogan vous menace, clignez deux fois des yeux, s'il vous plaît.
Mais pas du tout.
Je on avait dit pas de politique.
Can not happen. So, I guess it's déjà vu all over again.
Donc il aurait pu y avoir une suite à E.T., mais ce bon vieux Steven a refusé et je pense que on peut l'en remercier. Mais il y a eu un roman adapté du film ensuite. Ce qui est rare dans ce sens-là. Je ne savais pas non plus, Maxime, je vois tes yeux radiophoniques.
Je suis surpris.
Donc c'est assez étonnant dans ce sens-là. Donc on peut trouver sur Internet le scénario de E.T. 2 qui raconte comment Elliot et ses amis se sont fait capturer et torturer par des aliens maléfiques.
Wow.
Apparemment des E.T. albinos, si on en croit la description. Et donc voilà, lui aussi est à la recherche d'E.T. Apparemment, le vrai nom d'E.T. serait Zrek.
Le mec était sous une fausse. En même temps, on lui a imposé ce nom au final.
E.T. 2.0.
Zrek.
En même temps, c'est Zrek, arrêtez de m'appeler E.T.
En même temps, l'appeler E.T., c'est comme si on nous appelait femme.
Ah, peut-être.
C'est vrai.
Humain.
F.
Humain.
Oui. SF, sexe féminin.
SF.
Oh mon dieu.
Wow. Donc voilà, on remercie tous les producteurs de ne pas avoir produit cette suite.
Parfois c'est bien de dire non aussi.
Par contre, il paraît qu'il y a eu deux versions du film. Une qui est sortie en 82 et une en 2002, enfin remasterisée.
Oui, alors moi je crois que j'ai vu la sur Netflix, c'est la version originale, parce que j'avais cru voir qu'ils avaient remplacé les pistolets des mecs par des lampes torches ou par des talkie-walkie.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait attention. En fait, c'est vraiment des flingues sur la version Netflix, donc j'ai pas trop...
Ok, donc c'est la vraie version, parce qu'apparemment, Spielberg, en 2002, a fait ça, donc il y a eu quelques petits changements. Et je crois que dans la version originale, le doigt d'E.T. ne s'agrandit pas, alors que dans le deuxième, oui. Et, ou l'inverse, je sais plus. Enfin, en tout cas, ça a pas été hyper assumé par Spielberg, et c'est peut-être pour ça que la version... Netflix est...
Bah sur Netflix, j'ai pas l'impression qu'il s'allonge. Il est déjà tellement grand de base qu'il n'a pas besoin. Parce qu'il a des petits pieds, mais il a des doigts énormes, quoi.
C'est mon trauma, ça. C'est mon trauma.
C'est vrai que les doigts font un peu peur. Parce que
ça fait partie des fautes
de gérer avec ses doigts. Donc c'est trop flippant. T'as l'impression que c'est des sortes de...
Voilà. Moi, je trouve ça sympa. C'est un fait un peu grenouille, quoi.
Bah oui, c'est ça. Je pense qu'il a une vraie petite grenouille, en vrai.
Il est parti vexé tout à l'heure. Donc...
Oui, voilà. Tu voulais nous parler de Mac and Me, peut-être ?
J'ai pas grand-chose à dire. Si vous voulez, il y a une super émission qui s'appelle Crost. C'est sur Chroma, pardon. C'est de Karim Debbache. Et en fait, ça parle de Mac and Me, qui est un film très bizarre aussi, avec des extraterrestres et un enfant en fauteuil roulant. Et en fait, la morale est pas du tout la même que E.T. parce qu'il y a un truc très capitaliste où à la fin ils obtiennent la famille de Mac obtient la nationalité américaine et en fait ils boivent du coca et ils ont une grosse bagnole quoi.
Apparemment c'est une publicité géante pour McDonald's, c'est ce que j'avais.
Ouais.
Il est noté 1,7 sur Allociné.
C'est meilleur que Badi.
Sans vouloir te foncer.
Donc nous, en tant que petits Français de la génération des millennials, ce nom n'est pas sans nous rappeler une certaine chanteuse.
Chimène.
Ouais.
Chichi.
Alors pour découvrir ce film, je vous propose un jeu type sel ou poivre.
Ah,
c'est-à-dire que je vais vous donner des affirmations. Il faudra me dire s'il s'agit de Badi, de Chimène Badi ou les deux.
Oh là là.
Okay. J'adore.
Est-ce que vous êtes prêts?
Je suis trop dans le mood là.
Est-ce allez, vous êtes chaud.
J'entends rien, c'est parti.
Allez, allez, la foule est en délire. Oui. Alors, la première proposition. Je suis née en 1982.
Chimène Badi.
Les deux.
Les deux.
Chimène Badi.
Ah.
Car Badi est sorti l'année suivante.
Ah oui, oui, en 83.
On y était presque, on y était presque. La même génération, par contre. Je suis originaire de Turquie.
Les Badi. Deux. Les deux.
Non, c'est Badi. Car Chimène Badi est d'origine algérienne.
Moi, j'ai choisi. Comme d'hab.
J'ai un don venu d'ailleurs.
Les deux.
Badi.
Les deux. Parce que je pense que le père de Chimène Badi a volé toutes les étoiles.